avant mon incarcération, je vécus deux autres moments particulièrement émouvants. Le premier fut organisé par Véronique Ouachet, une nouvelle fois à la manœuvre, et l'un de mes chers amis, Laurent de Courcuff. Ce dernier, jeune et brillant entrepreneur, est connu pour avoir créé de toutes pièces le groupe Paris Society, qui possède certains des plus beaux établissements de restauration de la capitale. Véronique avait eu la très bonne idée d'inviter tous mes anciens collaborateurs, ceux qui m'avaient accompagné à l'Élysée, à Beauvau, à Bercy, à la mairie de Neuilly ou au département des Hauts-de-Seine, ainsi que mes avocats, afin que nous nous retrouvions pour une dernière soirée chaleureuse et amicale avant la prison. J'eus la surprise de retrouver des amis que je n'avais pas vus depuis longtemps, mais qui avaient tenu à être là pour nous entourer et nous donner de la force. Les unes avaient été mes secrétaires, les autres des collaborateurs de haut niveau, d'autres encore des membres de ma sécurité. Tous étaient là, unis par l'amitié, sans aucune notion de grade et de titre. C'était bouleversant. Je me retrouvais des années en arrière. Leur patron allait bientôt résider à la prison de la Santé, et pourtant, ils étaient fiers de faire partie de mes amis et de tout ce que nous avions fait ensemble. C'était une magnifique leçon de courage et de fidélité. Seuls quelques-uns n'étaient pas venus. Cela n'en donnait que plus de valeur à la présence de tous les autres. Je prononçais quelques mots pour expliquer mon état d'esprit et affirmer que je n'avais pas peur de l'enfermement. Ils m'applaudirent à tout rompre. Carla et moi avions les larmes aux yeux. Cela faisait tant de bien de se sentir aimé à ce point. Tout dans la vie n'est donc pas qu'une question de calcul et d'intérêt. Le second événement fut consacré à l'Institut Gustave Roussy. Nous étions une semaine avant mon incarcération. Chaque année depuis 2018, je passe une après-midi dans le service qui traite les enfants qui ont un cancer à combattre. Ils sont 2700 nouveaux malades tous les ans. Sur la même période, 250 en meurent. C'est dire si la visite est toujours un moment d'émotion intense. Les médecins sont admirables de compétence, les familles de courage, les enfants de résilience. Je n'aurais pour rien au monde annulé ma venue. Brigitte Macron, avec qui j'effectue chaque année cette visite, m'avait demandé si je maintiendrais ma participation. J'avais répondu positivement. Les autres fois, je m'y étais rendu pour les malades. Cette fois-ci, je dois bien reconnaître que je l'ai fait aussi pour moi. Car voir tant de souffrance et une telle dignité me faisait relativiser grandement ce qui allait m'arriver. Malgré l'extrême faiblesse de beaucoup parmi eux, j'ai ressenti, en partageant ces moments, une force immense. Ils étaient des exemples. Ils m'ont inspiré et obligé à être tout simplement à leur hauteur. Si jeune et si malade, c'était la définition même de l'injustice. Elle était bien pire que celle que je vivais. À la sortie de l'hôpital, je fus vivement salué par les familles qui se trouvaient à l'entrée. C'était beaucoup plus chaleureux que les autres années. Brigitte Macron fut amicale, attentionnée, et ne dit pas un mot de l'incarcération qui m'attendait. Je lui étais reconnaissant de cette pudeur. Nous avons fait comme si rien n'avait existé. Je crois que cela l'a soulagé. En cette fin d'après-midi à la Santé, je reçus une visite plus prestigieuse et plus agréable que celle des parlementaires de la France Insoumise. Elle était surtout plus attendue par moi, le garde des Sceaux Gérald Darmanin, était arrivé jusqu'à ma cellule à 19h précise. Accompagné du directeur de la prison, Gérald Darmanin pénétra dans ma cellule. Il s'assit sur la seule chaise de la pièce, et moi, en face, sur mon lit. C'était spartiate. Inutile de préciser que c'était la première fois que nous nous rencontrions dans ces conditions. Il était ému et gêné de me voir en prison. Ce léger malaise se dissipa vite. Nous nous connaissions depuis longtemps. Il avait été mon porte-parole et mon directeur de campagne au moment de la primaire 2016. Je lui ai toujours porté une sincère amitié. Je lui reconnais plus de talent que beaucoup dans sa génération. Il a notamment le sens de l'électorat populaire. Il le comprend. et sait parfaitement s'adresser à lui. Il est intelligent, vif, réaliste et fidèle, pour peu qu'il croie en la sincérité des sentiments qu'on lui porte. Il a un sens politique aiguisé, et son analyse est toujours fine et parfois originale. Il est de surcroît courageux et habile. Je fus heureux de le rencontrer. Cela représenta une éclaircie en ce début de soirée de cette fin octobre sinistre à la santé. Il prit de mes nouvelles et s'enquit de mes conditions d'incarcération. Il n'était pas obligé de le faire. À la fin de notre échange, nous avons évoqué rapidement la situation politique. Mon interlocuteur me confia qu'il n'était pas certain que le gouvernement puisse tenir davantage que quelques semaines. Je l'ai senti accablé par le contexte politique et inquiet de l'instabilité présidentielle. Il venait d'avoir un entretien avec le président Macron. J'ai compris que son objectif était clairement fixé sur l'horizon 2027. Après tout, pourquoi pas? Dans cette course de lenteur, celui qui survivrait à droite ne serait pas forcément celui qui prendrait les meilleures initiatives, mais celui qui ferait le moins d'erreurs. Et de ce seul point de vue, Gérald Darmanin avait marqué de nombreux points en évitant tous les pièges. Nous nous séparâmes après cet échange. Les surveillants attendaient devant la porte de ma cellule. Il s'agissait encore d'une scène étrange. Ils me confièrent par la suite « Oh, c'était sympa de voir notre ministre. Vous allez nous manquer quand vous partirez. » Inutile de préciser que la réciproque n'était pas évidente dans mon esprit. Puis le ministre me salua, éteint une longue réunion avec des représentants syndicaux de la pénitentiaire. J'ai eu un pincement au cœur quand il est parti. Je ne m'étais visiblement toujours pas habitué à voir tout le monde sortir, sauf moi. C'était tellement invraisemblable. Et si injuste. J'essayais de ne pas trop y penser pour ne pas devenir fou. Le retour à la réalité était parfois brutal. Je comprenais une nouvelle fois qu'en prison, il ne faut pas se laisser aller aux états d'âme. Le risque de descendre la pente à une vitesse accélérée est toujours très présent. J'appris par la suite qu'un collectif d'avocats d'extrême gauche avait porté plainte contre le ministre pour prise illégale d'intérêt, parce qu'il était venu me voir en prison afin de s'assurer des conditions de ma sécurité. J'oscillais entre bêtises, méchanceté et sectarisme pour qualifier cette démarche de la part de gens qui avaient épousé une profession dont la vocation était avant tout de défendre et qui se comportaient pour des raisons idéologiques et partisanes comme des procureurs assoiffés de vengeance. J'ai vite tourné la page afin de ne pas donner trop d'importance à ce qui ne le méritait pas. Comme souvent, le souverain mépris est la bonne réponse. C'est sur ces entrefaites que j'ai appris la nouvelle de la libération d'un des coprévenus de l'affaire libyenne, Wahib Nasser. Je ne le connaissais pas puisque je ne l'avais jamais rencontré avant le procès. Il s'était retrouvé condamné dans la même affaire, mais pour une partie du dossier qui ne me concernait nullement, celle de la villa de Mougins. Lors du procès, la présidente du tribunal m'avait indiqué que je pouvais être absent des journées d'audience qui lui étaient consacrées, puisqu'elle n'avait aucune question à me poser sur ce sujet précis. C'était un franco-djiboutien de 81 ans, banquier et ami d'Alexandre Djouri. Il avait été arrêté à l'audience. Je ne le voyais pas du fait de mon isolement, mais j'avais eu de ses nouvelles par mes avocats. Le pauvre homme ne supportait pas l'enfermement. Il passait son temps à la santé, allongé sur le lit de sa cellule. Il pleurait fréquemment. J'avais été ému par sa situation. Je ne jugeais nullement son comportement. La prison est si difficile que personne ne pouvait se permettre de lui donner la moindre leçon. J'étais doublement heureux de sa libération, d'abord pour lui, qui souffrait trop. La souffrance d'un être humain doit toujours susciter de la compassion. Ensuite, parce que mes conseils imaginaient qu'il s'agissait d'un signe positif pour moi, qui présentait des garanties de représentation plus solides. À tout le moins, il s'agissait d'une nouvelle encourageante. J'en acceptais l'augure. L'âge de Wahib Nasser et sa faiblesse physique m'ont fait penser au sort du malheureux Boualem Sansal. Ce jour-là, j'ai beaucoup réfléchi sur sa situation. Enfermé, alors qu'il était octogénaire et malade, dans les geôles du régime algérien, autrement plus inconfortable que celle que j'occupais. Sa détention s'éternisait, presque une année au moment où j'écrivais ces lignes. Je mesurais la force qu'il lui fallait avoir pour tenir sur une période aussi longue. Cela m'obligeait à relativiser ma situation et à me demander si j'aurais eu sa résilience. La santé me poussait à revoir et surtout à approfondir mes sentiments à l'endroit des autres. Je ne suis pas certain que j'aurais pensé ainsi avant d'avoir vécu cette expérience de la prison moi-même. Le proverbe populaire dit vrai, « À toute chose malheur est bon », c'était le dicton du jour. Parmi les surprises que me réservait la prison, j'en reçus une de taille, dans le courrier abondant qui m'était adressé. Je n'ouvrais moi-même aucune lettre. Mon secrétariat, Véronique Ouachet, faisait le tri parmi les centaines de missives qui m'étaient adressées chaque jour. Je dois leur vigilance d'avoir attiré mon attention sur un courrier vraiment singulier provenant d'un certain Patrick Gâteau. Je n'avais pas oublié ce nom. À sa vue, mes souvenirs sont revenus avec une précision totale. J'avais été à l'époque si choqué que je n'avais rien oublié. Ce fut même l'un des moments les plus marquants de mes 4 années au ministère de l'Intérieur. Nous étions en 2005. Nelly Crémel était une jeune femme de 42 ans, partie faire son jogging ce jour-là. Elle était la mère d'une jeune fille d'une dizaine d'années. Elle fut tuée par ce Patrick Gâteau et son complice. Le premier avait déjà tué. Il était donc récidiviste. Il fut condamné à la perpétuité avec 22 années de sûreté. Il en était à sa 21e. Pourquoi m'écrivait-il? Je n'en savais rien. Peut-être parce que j'étais moi-même en prison, mais pas pour les mêmes raisons. Je n'avais eu, bien sûr, aucun contact avec lui. Dans sa missive, tout en me reprochant d'être la cause de son incarcération, il m'expliquait qu'il avait beaucoup étudié, lu des centaines et des centaines de livres, que la détention l'avait modifié, qu'il était loin de celui qu'il avait été. Il terminait en me disant que j'avais été un bon président et qu'il me souhaitait bon courage. Je suis resté pantois. Je ne savais pas trop quoi penser. J'étais touché par sa repentance, et en même temps, je me souvenais des mots de la fille de Nelly Crémel, alors que j'étais assis à côté d'elle, dans l'église, pour les funérailles de sa mère. « Pourquoi avez-vous laissé tuer ma mère ?» J'étais sorti bouleversé de cette cérémonie d'enterrement. Je ne pouvais oublier ce que cet homme et son complice avaient fait. J'étais vraiment partagé entre la colère et la commisération, parce que toute personne, fût-elle la plus sombre, devait pouvoir se racheter. Je ne sais toujours pas si je vais lui répondre, mais fallait-il que le choc de mon incarcération fût profond pour créer des situations aussi improbables? Aujourd'hui encore, je me demande quelle doit être la bonne attitude face à cet homme 20 années après le drame. La coïncidence de ce courrier si surprenant ne pouvait relever du seul hasard. C'était de ce drame que datait la détestation d'un certain nombre de magistrats à mon endroit. Au moment de cet assassinat, j'avais provoqué une onde de choc en déclarant que le magistrat qui avait placé en libération conditionnelle le récidiviste Patrick Gâteau devait payer cette erreur en assumant ses responsabilités. J'avais osé mettre en cause la responsabilité des juges. Pour n'importe quelle autre profession, cela n'aurait posé aucun problème. Les médecins, les politiques, les journalistes, les chefs d'entreprise sont comptables de leurs erreurs, des dommages qu'ils provoquent, des conséquences de leurs actes. Cela paraît naturel, normal et même utile à l'équilibre de la société. Pour certains au sein de l'institution judiciaire, cela ne doit pas s'appliquer à eux. Dès le lendemain de ma déclaration, 200 magistrats s'étaient rassemblés devant le tribunal de grande instance de Paris pour protester avec virulence. J'étais, au dire du syndicat de la magistrature, un démagogue qui exploitait la douleur d'une famille. De nombreuses motions de protestation avaient été adoptées, jusqu'au premier président de la Cour de cassation de l'époque, Guy Canivet, qui crut devoir prendre la parole pour souligner les dangers qu'il y avait à faire du juge un bouc émissaire. Rien que cela. Quels excès ! J'avais été accusé d'avoir été violent, mais que dire de la réaction de mes adversaires de l'époque ? Un magistrat avait déclaré lors de ces manifestations « Si le ministre de l'Intérieur veut la guerre, il l'aura ». C'était prophétique. Effectivement, je l'ai eue. Elle dura longtemps, plus que je ne l'avais imaginé. J'en paye encore le prix. On ne m'empêchera pas de penser que l'on est bien loin du respect dû à tout justiciable qui a le droit d'être jugé pour ce qu'il a fait, non pour ce qu'il est. C'est bien là tout le problème. C'est ce respect que l'on attend de la justice. Que sont devenus les grands principes fondateurs de notre droit et de notre démocratie ? La présomption d'innocence, l'importance de la preuve, le doute qui doit bénéficier en toutes circonstances à l'accusé, l'impartialité des juges, le double degré de juridiction réduit à néant par l'exécution provisoire. Toutes ces règles fondatrices de notre régime républicain n'ont cessé d'être bafouées tout au long de ces interminables 12 dernières années. Cela a constitué une épreuve pour ma famille comme pour moi. Nous en avons souffert à chaque seconde, à chaque minute, à chaque moment. C'était comme un mal insidieux qui revenait dans mon esprit à chaque instant. Il ne s'est jamais agi pour moi de provoquer, de ferrailler, de défier quiconque, seulement d'affirmer mon innocence totale et complète. Je n'aspirais qu'à vivre tranquillement ma nouvelle vie, loin des affres de l'affrontement politique. Je n'avais nulle envie de ces nouveaux combats, mais je ne peux me résoudre à confesser des délits que je n'ai pas commis, pour espérer une clémence aléatoire ou juste un moment de paix. À la grande fureur de mes ennemis, j'ai vécu durant ces 13 dernières années. J'ai refusé de me laisser abattre, de demeurer immobile ou paralysé comme un animal apeuré pris dans les phares d'une voiture. J'ai bien vu que cela les faisait enrager. Seul mon malheur devait compter à leurs yeux. Durant toutes ces années, j'ai appris des nouveaux métiers, en plus de celui d'avocat. Je suis devenu entrepreneur, investisseur, conférencier, j'ai pris des initiatives, j'ai créé des activités, j'ai investi, j'ai voyagé. Pour cela, j'ai fait l'effort d'apprendre à parler anglais de façon à pouvoir être compris et entendu partout dans le monde. J'ai voyagé sans cesse pour découvrir, pour comprendre, pour m'émerveiller. Malgré mon âge, j'ai toujours l'énergie et l'enthousiasme du début de ma carrière. J'ai voulu démontrer que l'on pouvait avoir été un homme politique au plus haut niveau et, à 57 ans, devenir un homme actif dans le privé. C'est l'âge que j'avais quand j'ai quitté l'Élysée. Je ne pouvais me concevoir à la retraite, sans activité, si ce n'est celle de ressasser mes vieux souvenirs. Je n'ai jamais eu la nostalgie du passé. Quitte à exaspérer encore davantage mes censeurs, je revendique même d'avoir été heureux et actif, malgré ce calvaire judiciaire. Heureux parce qu'actif. À 70 ans passés, je n'aspire pas à l'inactivité. Je veux continuer à vivre avec ma famille, ma femme, mes enfants. Je n'ai aucun ressentiment à l'endroit de quiconque. Et surtout pas de la politique que j'ai aimée par-dessus tout. Et c'est toujours un plaisir pour moi de rencontrer les actuels responsables pour leur donner un conseil, un avis ou une impression. La politique m'a tout donné. Je devais le lui rendre. L'amertume n'a jamais été une marque de mon caractère et ne le sera jamais. Je n'en éprouve pas davantage à l'égard de la France. C'est mon pays. Celui qui m'a donné la chance d'aller si haut, de vivre si vite, de croire en mon destin. Notre pays qui est capable du meilleur souvent et du pire parfois. Je l'aime avec ses qualités et ses défauts. Je souffre quand on le salit. Et en bafouant mon innocence, on a abaissé la France. Il suffit pour s'en convaincre de lire la presse internationale qui a beaucoup critiqué l'outrance de ma condamnation. Je n'ai bien sûr aucune amertume à l'endroit des Français, y compris envers ceux qui m'attaquent si violemment, ignorant les mots admirables de Charles Aznavour, et retenir les cris de haine qui sont les derniers mots d'amour. Il parlait d'un couple qui se séparait, mais il soulignait ce principe universel qui veut que la haine soit un lien affectif, finalement pas si éloigné d'un amour trop violent pour être contenu. J'ai vu, à l'occasion de mon incarcération, la force de ce lien charnel qui me lie avec tant de Français. Il est indestructible, parce qu'il est aujourd'hui parfaitement désintéressé. Je ne suis plus dans la politique, je n'aspire nullement à y revenir, il n'y a donc aucune arrière-pensée, aucun utilitarisme, aucun cynisme, juste des sentiments. Et au fond, c'est définitivement ce qui compte le plus à mes yeux.